Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes en effet en direct ce mardi du Parlement européen à Strasbourg. Une émission préparée par Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Kieran Gessel, réalisée par Delphine Lemaire, à la prise de son, Jürgen Schmitt et Vincent Gendreau. Dans 5 ans, je veux que cette commission ait joué un rôle clé pour faire passer l'Europe de la crise à une économie compétitive qui fournisse croissance durable et prospérité à tous nos citoyens. Ainsi parlait José Manuel Barroso en février 2010, au moment de se voir investi pour un deuxième mandat à la présidence de la Commission européenne. Et ce n'est pas faire preuve de partialité que d'affirmer qu'au regard de ses objectifs, Barroso aura échoué. Alors quel sera le bilan de l'équipe en passe de lui succéder? Question évidemment sans réponse aujourd'hui. Mais au moins peut-on essayer d'en savoir un petit peu plus sur les intentions de Jean-Claude Juncker et de ses 27 commissaires. Si tout se passe comme prévu, la nouvelle Commission européenne sera investie le 1er novembre prochain, après avoir été approuvée demain dans sa globalité par le Parlement européen. Une mise en place dans un contexte difficile. L'Europe n'est pas sortie de la crise économique. Le niveau de chômage moyen reste supérieur à 10%. À cela s'ajoute la crise démocratique, un déficit de représentation dont on a pu mesurer les effets lors des dernières élections européennes. Alors pour réussir, la commission Juncker devra surmonter ces deux obstacles, ses atouts des personnalités expérimentées, parmi lesquelles nombre d'anciens premiers ministres, mais une diversité de points de vue qui risque de rendre difficile l'élaboration de projets communs. Alors la commission Juncker a-t-elle un projet politique? C'est notre sujet du jour. Et c'est à une sorte de club de la presse européen que nous vous convions aujourd'hui avec 4 invités, à commencer par vous, Griselda Pastor, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste espagnole, correspondante pour l'Europe, pour la radio Cadena Ser. Pour discuter avec vous, Michel Stabenow, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste allemand, correspondant Europe, au Frankfurter Allgemeine Zeitung. Notre troisième invité, lui, est italien. Il s'agit de Lorenzo Canzoli. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous travaillez pour l'agence de presse Ascan News, agence que l'on connaît encore très mal, puisqu'elle vient changer de nom. En tout cas, c'est aujourd'hui que vous avez inauguré cette nouvelle appellation, c'est bien ça? Et puis notre quatrième invité, c'est Quentin Dickinson. Bonsoir Quentin.
Bonsoir.
Directeur des affaires européennes de Radio France. Alors je le disais en introduction à cette émission, ce qui nous intéresse ce soir, c'est à la fois d'examiner la cohérence politique de cette nouvelle commission et puis les projets qui vont être les siens pour les années à venir. Mais avant tout cela, il faut évidemment parler de l'actualité. L'actualité la plus récente, ou en tout cas une des plus récentes, c'était la dernière audition d'une candidate à un poste de commissaire, en l'occurrence la Slovène Violeta Bulc, qui se présentait Bulc, comment dit-on, Quentin Dickinson?
Bulc.
Voilà, je vous ai vu faire
Bulc.
L'amour quand j'ai...
Bulc.
J'ai bien peur que pendant cette émission, vous soyez obligé de me reprendre sur certains noms de commissaires. En tout cas, elle était là pour candidater pour les transports, sachant qu'elle remplaçait une de ses compatriotes. Alors, comment faut-il l'appeler? Alenka Bratusek. Bon, on n'aura pas besoin de retenir son nom.
Bratusek.
Quentin Dickinson, non. Puisque de toute manière, elle ne sera pas commissaire. Elle était là pour l'énergie. Il y a eu un petit jeu de chaises musicales. Bref. L'audition de la Slovène, de la dernière commissaire en lice, c'était hier soir. Est-ce que tout s'est passé correctement? Et est-ce que la Commission européenne est prête demain à être adoptée par le Parlement européen, Michel Stabenow?
Oui, apparemment oui. Demain, vers 13h, nous aurons une nouvelle commission, une équipe qui sera élue, sans doute à une très large majorité. De là à dire que tout s'est passé correctement, je serais quand même assez prudent, parce qu'il faut quand même voir que Mme Bulc avait été nommée il y a une dizaine de jours.
Elle n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer son audition.
5 jours, sans qu'elle ait vraiment la moindre expérience au niveau de la politique européenne. Elle vient d'être nommée membre du gouvernement slovène il y a quelques semaines à peine. Donc c'est quand même un peu bizarre de voir quelqu'un... être capable, en l'espace de 3-4 jours, d'être expert dans des matières tellement compliquées que la politique des transports. Parce que là, il s'agit, par exemple, des détails de la libéralisation du marché ferroviaire, mais aussi des questions de péage sur les autoroutes, des gros camions à 26 mètres ou 25 mètres, 25. Donc, il était tout à fait étonnant, il aurait été tout à fait étonnant qu'elle soit en mesure d'y répondre convenablement, mais il y avait une volonté que cette commission passe maintenant, puisque, comme vous avez dit, la première candidate, Mme Bratoushek, avait été refusée, recalée, donc on voulait tout à fait éviter que ce soit vraiment un désastre pour la Slovénie.
Griselda Pastor, ça a été un peu laborieux, néanmoins ça l'a quand même été bien moins que pour la commission Barroso 2, où il avait fallu attendre plusieurs mois pour que ça se mette en place.
Là, il le connaissait. oui, là, il le connaissait. Donc, oui. Voyons l'enjeu cette fois, de mon point de vue, c'est cette grosse coalition qui est nécessaire. Donc, c'est un peu vraiment de savoir si le besoin d'aller ensemble, ça a toujours été comme ça. Mais cette fois, il formalise beaucoup mieux cet accord en disant que l'ennemi est plus proche. Et pour les partis traditionnels, l'ennemi, ce sont tous les autres qui ne sont pas dans les groupes traditionnels et qui sont à droite, qui sont à gauche.
Donc il fallait montrer quoi ? Il fallait montrer qu'on était capable de s'entendre rapidement sur des noms de commissions.
Il fallait montrer qu'ils sont capables de s'entendre pour soutenir une commission qui est plus politique, mais l'enjeu est de savoir si son sens de la politique sera bien compris dans les capitales. Dans les capitales qui sont maintenant sous les programmes d'austérité, comme l'Espagne, qui vont le devenir, comme la France. Donc il faut savoir si cette culture européenne va être capable d'être bien interprétée et utile, vraiment pour empêcher que l'expression de citoyens qui sont vraiment mal à l'aise avec la situation économique actuelle puisse continuer à donner deux voix à des gens qui ne croient plus au projet européen.
Alors on va voir justement dans un instant s'il y a une cohérence politique dans cette nouvelle commission et si cette cohérence pourra être perçue par, non seulement par les capitales européennes, mais également par les citoyens européens. Mais sur les conditions de la mise en place de cette nouvelle commission, Lorenzo Consoli, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que finalement les eurodéputés ont joué le jeu de la contestation sur quelques postes, parce qu'il fallait bien montrer que, au-delà de l'accord entre les sociaux-démocrates et les conservateurs, on pouvait quand même contester quelques nominations, mais que tout ça, c'était peut-être quoi, une forme de jeu institutionnel ?
Non, je crois que les auditions ont été sérieuses. Il y a eu un moment où on a eu l'impression un peu que les commissaires désignés étaient pris en otage, surtout M. Moscovici, le commissaire désigné français, a carrément été pris en otage parce que son audition était bonne. Mais ils lui ont demandé 40 fois la même question pour le mettre en difficulté. Il a répondu bien, mais 40 fois la même question, carrément, on a l'impression qu'on est un peu grillé.
Il faut dire qu'il faut avoir un certain sens de l'humour, peut-être de la part de Jean-Claude Juncker, pour nommer commissaire européen chargé de questions budgétaires, un ministre, un ancien ministre de l'économie et des finances français.
Ça fait partie, ce n'est pas que le cas de M. Moscovici. On a eu plusieurs cas dans cette commission où il y avait cette logique paradoxale, si vous voulez, mais c'est une logique qui dit, comme ce pays-là a un problème sur ce point-là, on met un commissaire qui s'occupe de ce point-là, qui sera contraint de travailler pour l'Europe et d'expliquer à son pays pourquoi il fait ça. Et donc finalement, il sera un ambassadeur de l'Europe dans son pays plutôt que l'ambassadeur de son pays à l'intérieur de la commission. Carrément, ça peut marcher dans un sens, mais aussi dans l'autre. Donc ça dépend un peu du contrôle que cette structure collective et des prises de décisions collectives nouvelles qui a été créée par Juncker réussira à créer justement sous les actions des individus. Et donc que les individus, les commissaires individuels, ne soient pas en mesure de prendre des décisions sur la base d'un input national ou même d'un grand lobby, parce qu'il y aura de toute façon le contrôle et la prise de décision commune, le contrôle collégial. Donc c'est un peu, ça répond à la logique Moscovici, mais aussi il qui est commissaire aux services financiers alors qu'il vient de Londres, ça répond à la même question. Mais même le commissaire espagnol.
C'est une façon de débiliter, non, ça, les commissaires, de mon point de vue.
Ça peut aussi être une façon de les mettre dans une situation difficile, parce qu'on sait que là, il y a des intérêts nationaux, dans le cas de, du commissaire espagnol aussi un problème de conflit d'intérêts. Donc si on fait des choses qui ne sont pas tout à fait claires, là on est tout de suite critiqué.
C'est de l'habileté politique quant à Dickinson qui confine quasiment au machiavélisme là, de la part de Juncker.
Je ne pense pas qu'il faille y voir trop de machiavélisme. Je crois d'abord qu'il faut rappeler que M. Juncker n'était absolument pas candidat aux fonctions de président de la Commission européenne. Il lorgnait plutôt sur la succession de Herman Van Rompuy à la présidence du Conseil européen.
Sauf que ça s'était pris, les Allemands avaient décidé, enfin quasiment, c'est Donald Tusk, l'ancien Premier ministre polonais.
C'est en tout cas Mme Merkel qui était aux manettes et qui a fait en sorte de faire pression sur M. Juncker pour qu'il soit candidat à ce poste dont il ne voulait pas. Aujourd'hui, nous sommes quelques-uns à Bruxelles à nous demander si M. Juncker a totalement le profil et même s'il a un état de santé qui lui permettrait de tenir 5 ans à ce poste de président de la Commission européenne. Donc très franchement, il y a des limites au machiavélisme. Mais pour en revenir à cette question qui est importante des auditions, nous venons, il faut s'en souvenir, d'une situation où nous avions des chefs d'État et de gouvernement qui, volets fermés, rideaux tirés, entre eux, dans une arrière-salle, décidaient de nommer tel ou tel technocrate, sans en référer à qui que ce soit, membre de la Commission. Aujourd'hui, il y a certainement un mieux. C'est que nous nommons des politiques de façon croissante et la commission Juncker est intéressante parce que, comme il a été dit à l'instant, il y a là un grand nombre d'anciens premiers ministres et d'anciens ministres. C'est une commission bien plus politique que tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Et ceci signifie aussi que nous avons une obligation de rendre transparentes les conditions d'accession au poste de commissaire. Oui, donc les auditions sont importantes, même s'il faut bien voir les limites de ce genre de choses, un peu artificiel, parce que effectivement, nous avons des futurs commissaires qui ne connaissent absolument pas leur dossier ou depuis très peu de temps. Moi, j'ai assisté à l'audition de Mme Bult hier soir. C'était remarquable que quelqu'un ait pu apprendre l'Europe et les transports en 4 jours. Et je dis bravo l'artiste. Et d'un autre côté, on est quoi? On est face à des députés européens dans un Parlement qui a été renouvelé à plus de 50% quelques semaines auparavant.
Des députés européens qui ont joué leur rôle à fond. Michel Stabenow, si, par exemple, ils ont laissé passer l'Espagnol. Alors, on parle de l'Espagnol Cañete du PPE qui est chargé de l'énergie et du climat et qui a des intérêts dans des compagnies pétrolières. Est-ce que ça n'est pas la preuve que le Parlement européen soit n'est pas aussi puissant qu'il le dit, soit en tout cas que les eurodéputés ne sont pas en mesure de se servir totalement des outils qui sont les leurs?
Je crois qu'il faut regarder ce dossier sous l'angle du Parlement européen. Je voulais quand même relativiser les propos de Quentin, parce que notre impression, c'était que Mme Merkel n'était pas tellement chaude lorsqu'il s'agissait de nommer M. Juncker au poste de président de la Commission.
Ah ben, Juncker raconte partout que c'est Merkel qui a fait pression sur lui.
Oui, mais Mme Merkel a eu des propos un peu désobligeants à son égard. Donc on a été quand même assez surpris. Mais ça démontre qu'à la fin, c'est la volonté du Parlement qui s'est forgé le chemin. Et je crois que c'est ça le point intéressant au niveau du Parlement, qu'ils aient eu la possibilité d'imposer à la fin le candidat en lice du parti PPE aux élections, alors que le Conseil européen, donc les membres ou les chefs d'État et de gouvernement, n'en voulaient pas du tout. Et c'est pour cela que je trouve également très dommage que cet exercice des auditions, en général réussi, ait été un peu bâclé en ce qui concerne l'audition de Mme Bult. En ce qui concerne M. Arias Cañete, le commissaire espagnol, là on entre vraiment dans le jeu politique ou même politicien. On avait parlé de Moscovici. Donc c'est du donnant-donnant et c'est comme ça que les choses se passent malheureusement au niveau européen. Et le Parlement en sait quelque chose.
Griselda Pastor. Et
pour moi, c'est la clé de l'exercice. Donc, c'est la clé de toute l'injure, c'est M. Cañete. Ce n'est pas parce qu'il soit espagnol. Mais je crois que sa situation a été sujet d'une grosse campagne, pas à propos de la propriété de sa compagnie familiale, non, surtout à propos de que l'histoire de la politique espagnole. Il a été ministre de l'Agriculture et il a eu des choses à dire sur l'environnement. Ne fait pas de lui l'homme qui doit gérer le changement, la protection pour le changement climatique. Donc, il y a eu plus de 600 000 signatures ramassées, mais ils n'ont pas pu toucher à son dossier. Et pourquoi? Et on revient au vrai commandement de l'Union à cause de Mme Merkel, parce que c'est elle qui s'est engagée cet été avec M. Rajoy. C'est la seule chose que M. Rajoy peut obtenir pour l'instant comme, disons, importance de l'Union, que mon candidat est intouchable. Et c'est ce qu'il a eu, et c'est comme ça. Donc pour moi, c'est un problème. Je crois que les pactes sont nécessaires, mais le pacte doit être crédible, proportionné et doit être bien compris dans chaque capitale. La question de M. Cagnetti fait absolument incompréhensible tout le bilan du pacte politique et de l'avenir politique de l'Union, parce qu'on a le sentiment qu'on n'a pas pu toucher. Ce n'est pas les renvoyer. Vous voyez qu'il y avait trois options. T'il gardait dans le poste, s'il gardait dans le poste avec un changement, tu lui changeais le poste. Mais le Parlement n'a pas eu la capacité, même si par rapport à l'audition, c'était clair que la majorité pensait que même s'il était techniquement bien préparé, il n'était pas l'homme qui inspirait la confiance suffisante pour gérer ces dossiers. Alors bon, ils n'ont pas pu toucher à ça. Moi, je crois que c'est là, et pas sur Mme Bulc, même si c'est vrai que c'était tout vite fait. Mais bon, je crois que c'est sur Cagnet et pas sur Mme Bulc où la crédibilité du Parlement est en jeu aujourd'hui.
Alors si on observe cette Commission européenne d'un point de vue global avec ses 28 commissaires, est-ce que ça veut dire que vous considérez que cette nouvelle commission manque un peu de cohérence politique? On voit bien qu'il y a les différentes tendances, les grandes tendances politiques qui sont représentées au Parlement, 14 conservateurs, 9 sociaux-démocrates, 4 libéraux et un Tory britannique. Est-ce que ça permet à Jean-Claude Juncker, Lorenzo Consoli, d'avoir une forme de gouvernement cohérent politiquement?
Ça a toujours été comme ça. Dans les commissions précédentes, il y a toujours eu ce type de
D'assemblage
de différents partis politiques. Il y a eu des commissions, il y avait même des vertes. Le problème est, à mon avis, surtout s'il y a un programme cohérent pour les 5 ans, s'il y a une vision cohérente pour les 5 ans, s'il y a un leadership qui permet de mettre ensemble ces personnes qui viennent de forces diverses sur le même objectif. Alors évidemment, Delors avait ça. Jacques Delors a fait ça pendant ses 3 commissions, en fait, de 10 ans à la commission. Et après lui, on a eu un peu plus de difficultés à voir ça, à voir cette leadership.
Alors,
Barroso,
Barroso
a fait ça, mais dans un sens, à mon avis, moindre. C'est-à-dire que la vision de Barroso était une manque de vision. Barroso était là pour ne pas déranger les États, pour laisser passer l'intergouvernemental à l'intérieur de la Commission, c'est-à-dire du règne du royaume de la méthode communautaire. Et donc, ça, aujourd'hui, on a vraiment une sensation de changement qu'il faut, qui est nécessaire. Et Juncker, il a compris très, très bien. Un changement dans le sens, justement, d'une vision, d'un changement aussi dans les politiques économiques. Mais là, le problème qu'il y a à Juncker, c'est qu'à l'intérieur de cette commission, il y a la volonté d'aller tous ensemble. Probablement, il aura cette leadership. Il y a aussi Timmermans, le Hollandais, qui est très fort là-dedans et qui est vice-président avec un pouvoir qu'aucun vice-président n'a eu jamais avant. Mais la chose la plus importante, il y a aussi une ambiguïté. Et d'ambiguïté est dans le fait que là, le changement de cap qu'on cherche, qu'on s'attend au niveau des politiques économiques, n'est pas vu de la même façon des populaires et des socialistes. Les populaires veulent continuer avec leur idée de stabilité, surtout les Allemands, de stabilité, et donc les politiques d'austérité peut-être un peu amoindries, un peu plus douces, mais ils ne veulent absolument pas qu'on parle de déficit spending, alors que les socialistes disent carrément qu'il faut faire les investissements, et pour faire les investissements, il faudra aussi peut-être toucher un peu les budgets et la politique budgétaire.
Ah, ça sera peut-être justement à Jean-Claude Juncker d'imposer ce changement de cap. Est-ce que, justement, il y a cette volonté-là qui se manifeste aujourd'hui, Michel Chitabenot, en tout cas de marquer la rupture avec la précédente commission et peut-être de s'inscrire davantage dans la ligne qui fut celle de Jacques Delors, avec une commission très, disons, très autonome et très politique?
On peut critiquer José Manuel Barroso à maintes égards.
Et Dieu sait qu'on ne s'en prive pas.
Oui, tout à fait, mais ce qu'il dit à juste titre, que la période des années 80-90, lorsque Jacques Delors était aux commandes, n'était pas les mêmes. Il y avait une communauté de 12 États membres à l'époque. Donc, pour lui, c'était moins difficile à mettre les deux bouts ensemble. Mais il y a un point qu'il faut aussi garder à la tête, c'est que, alors que Juncker, et c'est un paradoxe, est vraiment l'émanation du vote populaire au Parlement européen, les commissaires, eux, tous ont été nommés par les gouvernements. Ils n'ont pas été nommés par les électeurs. Donc ça explique pourquoi il y a une hétérogénéité au niveau de la Commission. Mais Juncker, il a l'avantage que, d'ailleurs, d'abord, c'est un vieux renard, un vieux routier. Et puis, il n'a de compte à rendre à personne, sauf au Parlement européen. Il a une certaine distance, aussi bien vis-à-vis de Mme Merkel, ainsi que de la France, alors que par le passé, c'était un peu l'interprète des deux côtés. Maintenant, il est dans une situation où il peut forger une position entre les deux. Et c'est à partir de cette base-là qu'il pourra entamer ce débat d'aller vers peut-être une interprétation plus souple des règles de stabilité, mais il faudra qu'il soit très très prudent à cet égard-là, parce que je connais mes compatriotes.
Je crois d'ailleurs que Jean-Claude Juncker va s'exprimer demain devant les eurodéputés. Est-ce que ça sera l'occasion, Quentin Dickinson, de préciser un certain nombre de ses projets pour l'avenir ?
Certainement, parce que cette déclaration est à rapprocher d'une déclaration de politique générale dans un Parlement national par un nouveau chef de gouvernement, et on verra effectivement exactement dans le détail ce qu'il va proposer, quels sont les points forts. On connaît les têtes de chapitre, mais l'ordre, la hiérarchie de ces priorités, on ne la connaît pas encore. C'est demain qu'on verra cela.
Il a déjà parlé d'un plan de relance de 300 milliards sur 3 ans. 300
oui,
milliards
alors,
d'euros, bien sûr.
Alors, on a beaucoup parlé de ce plan, sauf qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On sait qu'il y a 300 milliards, mais on ne sait pas trop d'où viennent les 300 milliards, mais on les trouvera certainement, puisqu'il le dit. Bon, et puis, déjà, comme vous avez pu le voir, il y a une entente
public
au début.
Privé, parce que c'est
public et privé,
ça,
absolument.
Il avait parlé d'argent nouveau aussi, apparemment.
Alors, l'argent nouveau, d'où vient-il ? Est-il public ? Est-il privé ? Dans quelle proportion ? Enfin, tout cela reste en l'air. Et comme vous avez pu voir, il y a une entente franco-allemande en train de se forger en ce moment même sur le fait de savoir comment on pourrait renaître par l'investissement. Est-ce que cet investissement-là compte sur les 300 milliards de M. Juncker ou pas ? Tout ça reste à l'état d'hypothèse. Non, moi, pardon de redescendre au niveau des pâquerettes, mais il ne suffit pas pour M. Juncker de mettre en route une réorganisation des portefeuilles à l'intérieur des 28 membres de la Commission, de nommer un premier vice-président ayant des pouvoirs, comme vous le disiez très justement, Hervé, sans commune mesure avec tout ce qu'un vice-président a pu avoir depuis que la Commission existe.
C'était Michel, je crois, qui le disait.
Oui.
Non, c'était Lorenzo Consoli.
Voilà, bon,
on se ressent.
Près de Corriche.
On est
bon.
Tous d'accord.
Et donc, effectivement, maintenant, il faut que la mécanique suive. Et ça va être extrêmement difficile. Il faut maintenant que les services de la Commission, qui sont pléthoriques, non, mais qui sont extrêmement nombreux, complexes et lourds, il faut maintenant faire en sorte que cette mécanique change, qu'il y ait une modification de l'organigramme, que des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble travaillent ensemble, que des gens qui ont l'habitude de travailler pour un seul commissaire se mettent à devoir répondre de leurs actes devant deux, voire trois commissaires différents, ça va changer à la fois les structures et les façons de travailler. Et voilà pourquoi, moi, je ne pense pas que la Commission soit en ordre de bataille avant au moins un an et demi. Au moins un an et demi sur un mandat de 5 ans.
Griselda Pastor.
Moi, je crois que ça a déjà commencé, tiens. Enfin. Donc, moi, je crois qu'avec Mme Bratušek, qu'il a bien montré que...
Donc, et donc la commissaire
slovène qui a rejeté. Donc, ça a été la seule victime. Disons que le Parlement a choisi la victime la plus facile. Donc, on vient des élections européennes. C'est la première fois qu'on a des candidats. C'est là qu'on essaie de dire le jeu politique commence dans l'Union, d'accord ? Donc, on vient de ça. C'est un grand moment pour le Parlement européen. C'est le Parlement qui force ça. C'est un peu M. Schulz qui force ça parce qu'il s'entête être chef de liste. Il force le populaire à devoir désigner indirectement un chef de liste. Ça, c'est nouveau. C'est la première fois qu'on est confronté à des candidats qui disent qu'ils veulent l'être et pourquoi ? Donc, ils se montrent publiquement. On n'a jamais vu ça dans l'Union. À Bruxelles, quand les gens vont en poste, ils vont un peu par derrière, ils se font tout gris. Donc ça a complètement changé. On commence par là. Mais alors, on va aux auditions, ces examens. Et qu'est-ce qu'on fait? On choisit la victime facile. Qui est la victime facile? Pas seulement parce qu'elle est femme. Il y en a d'autres dans la commission. Mais parce qu'elle est la seule qui n'a pas un gouvernement derrière. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire aussi qu'elle est libérale, elle n'est pas soutenue par le PPE ni par les socialistes.
Justement, ça aussi. Mais surtout, elle n'a pas un gouvernement derrière. Là où je voulais aller, c'est que dans le premier bras de fer, c'est le gouvernement qui gagne, parce qu'ils n'ont touché aucun de ces candidats. Et donc, après ça, il y a le gros débat pour voir si elle démissionne ou pas. Juncker efface le Parlement complètement et elle dit c'est ce qu'elle veut. Donc, tout le rôle politique du Parlement a disparu. On a une nouvelle personne qui arrive. Bon, pour moi, c'est très important de voir comment le Parlement sera joué politiquement dans un vrai jeu, pas seulement avec la Commission, mais avec le gouvernement. Et c'est nécessaire qu'il soit à l'auteur, parce que s'il accepte de jouer la politique médiatique, il n'y aura pas de politique européenne.
Donc est-ce que je dois comprendre de ce que vous dites tous les quatre ce soir, que finalement cette commission Juncker, elle ne porte pas forcément la patte de Jean-Claude Juncker, qu'en tout cas, il a dû faire une espèce de puzzle avec des personnes qu'on lui a imposées et qu'il a essayé peut-être de placer les personnes au mieux pour pouvoir lui faire passer sa politique, Michel Stabenow?
C'est un jeu d'équilibre. Il n'avait pas le choix. Comme on l'a dit, on lui a présenté tous ces commissaires-là. Ce qu'il a fait par après, c'est ce montage, cet assemblage, dont on ne sait pas encore exactement comment ça va se dérouler dans la pratique, hein, parce que M. Moscovici aura affaire à plusieurs commissaires ou vice-présidents de la commission qui sont plutôt libéraux, qui ont une vision plus orthodoxe.
Et... Oui, on ne sait pas très bien d'ailleurs s'il sera sous leur autorité, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura un rapport hiérarchique entre eux ou pas.
Mais il faut quand même se rappeler que dans les traités, et les traités font quand même foi, il est explicitement dit que tous les commissaires sont à pied d'égalité. Donc si jamais, dans la pratique, ça se passerait autrement, je me demande si ça n'amènera pas des problèmes. Et puis, deuxième chose, il ne faut jamais oublier, c'est aussi une loi européenne que les commissaires, alors qu'ils sont nommés par leur gouvernement, ils sont liés par l'intérêt européen et pas par l'intérêt national. Donc ça, c'est vraiment pour moi le grand défi pour Juncker, pour que vraiment ces commissaires-là jouent pleinement ce rôle. Mais je me demande comment est-ce qu'ils peuvent le faire s'il y a les vice-présidents, notamment M. Timmermans, dont Lorenzo avait parlé, qui apparemment seraient en mesure d'arrêter même des projets de directives, de lois européennes qui émanent de ces commissaires.
C'est peut-être aussi une façon, cette nouvelle mécanique qui est proposée par Jean-Claude Juncker, donc avec différents niveaux de commissaires, de quoi de rendre aussi, enfin peut-être d'incarner davantage le gouvernement de l'Europe, c'est d'avoir quelques personnes un peu plus médiatisées plutôt que d'en avoir 28, qu'ils sont très peu, quant à Dickinson.
Il y a de ça, évidemment. Mais bien sûr, Michel a raison de dire que les traités disent que les commissaires sont tous égaux. C'est vrai, parce que qui voudrait, dans un État membre, dire qu'il a un commissaire de deuxième ou de troisième classe. Donc il faut qu'ils soient tous égaux. C'est clair. Mais d'un autre côté, moi je me souviens très clairement lors de l'audition de Mme Bulc hier soir, ici même, que Mme Bulc, en faisant référence au désormais vice-président Shevchovitch, elle a parlé de lui en disant « mon chef ». Donc dans son esprit à elle, il y a un vice-président au-dessus d'elle et il y a un lien hiérarchique très clair. Je crois que ceci s'imposera en dépit de la lettre des traités.
Griselda Pastore et Lorenzo Consoli.
Et pour moi, l'important, c'est de ne pas oublier que pendant 5 ans, la Commission a été effacée de décisions politiques, subordonnée au gouvernement. Et c'est le gros enjeu de mon point de vue.
La faute à la Commission ou la faute au gouvernement? Est-ce que ce ne sont pas les gouvernements qui ont voulu se réapproprier?
La faute à la Commission parce que chacun a reçu son salaire chaque mois. Vous voyez, hein. Donc de mon point de vue, c'est la faute à la Commission, directement. Donc on aurait été dans une grosse crise, mais on n'y a pas été, parce que la Commission a accepté d'être subordonnée. De mon point de vue, Juncker est en train d'essayer de refaire ça, le changer. C'est très difficile, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, chaque commissaire vient d'un État membre, chaque gouvernement a des intérêts dans tous les débats, pas seulement dans son débat national. Donc, quand tu es dans le collège, tu es confronté à des forces directement qui essayent de neutraliser les intérêts de l'Union, entre guillemets, non ? Bon, moi je crois qu'il essaye, pour la première fois depuis très longtemps, avoir un instrument politique puissant et un peu indépendant. S'il va s'en sortir ou non, Je ne sais pas. Mais c'est important.
Ça, personne ne sait ce soir, hein, j'imagine. Lorenzo Canzoli.
Moi, je voudrais dire que je vois la logique. Je crois que c'est aussi une tentative qu'il faut suivre, que ça vaut la peine de faire, d'avoir cette collégialité à l'intérieur de la commission. Je ne crois pas vraiment à l'histoire des hiérarchies fixes. Je crois qu'à part Timmermans, qui a un rôle différent, parce que Timmermans, en fait, c'est le suppléant du président. Donc il a les mêmes pouvoirs du président si le président n'est pas là, ou si le président lui délègue ses pouvoirs. Et là, il y a carrément un plan différent, supérieur par rapport aux autres commissaires. Pour les autres, c'est surtout l'idée qu'il n'y aura pas une seule décision qui sera prise depuis le début à partir d'un seul commissaire. Il y aura, depuis le début, il y aura toujours une situation de collégialité où deux, trois commissaires ou commissaires vice-présidents vont travailler ensemble. Et donc, ce n'est pas vraiment l'idée qu'un commissaire est supervisionné, comme on dit en anglais, par les vice-présidents. C'est surtout le fait de ne pas avoir justement un commissaire qui a son pouvoir et qui exerce son pouvoir tout seul en dialogue avec son État, ou en dialogue, son État membre, ou en dialogue avec une lobby puissante, comme on l'a vu par exemple avec certains commissaires qui suivaient certains secteurs industriels par exemple. La chose importante aussi à dire, c'est que Juncker veut, et ça je reviens à ce que Griselda disait, il veut rétablir la méthode communautaire. Or, Barroso n'avait pas idée de ce que c'est la méthode communautaire. Parce que Barroso, il théorisait une chose très simple. Si je sais que pour l'Europe est nécessaire de prendre une certaine initiative politique, la Commission a l'initiative politique, l'initiative législative. Mais je sais aussi que l'Allemagne ou la France sont contre. Alors à quoi bon ? Pourquoi je vais commencer, pourquoi je vais lancer une initiative en sachant que finalement elle sera arrêtée par la France ou l'Allemagne ? C'est complètement stupide. Ça n'a rien à voir avec la Commission, la méthode communautaire. Le rôle de la Commission est de faire l'intérêt de l'Europe, l'intérêt général de l'Europe et des citoyens européens. Si l'Allemagne est contre, l'Allemagne s'exprime au niveau public, ou si la France est contre, s'exprime au niveau public contre la Commission. Et explique pourquoi elle pense qu'elle est contre. Mais la Commission a le devoir de venir avec cette initiative. Donc je crois que Juncker doit faire ça. Il doit renforcer la Commission avec la collégialité qui évite que l'intergouvernemental rentre dans la Commission par les commissaires. Et il doit reprendre l'esprit communautaire et la méthode communautaire que Barroso a oubliée.
Alors, ce qui accrédite votre thèse qu'une commission avec des vice-présidences n'est pas là pour essayer de mettre de la hiérarchie, mais plutôt de la collégialité, c'est qu'on se rend compte que ni la France, ni l'Allemagne, ni le Royaume-Uni n'ont revendiqué ces vice-présidences. On peut imaginer, Michel Stabenow, que si ça avait été des postes importants, on retrouverait un Allemand, un Français, un Britannique. Je suis d'ailleurs presque aussi étonné par l'identité par le poste du commissaire allemand. C'est Günther Oettinger qui est en charge de l'économie numérique. A priori, peut-être avoir plein de réactions par mail en disant « mais si, évidemment, l'économie numérique, c'est important, mais c'est vrai qu'a priori, ça ne fait pas partie des postes prestigieux ». Est-ce que ça a été vécu comme un désaveu en Allemagne ou bien est-ce que…
Non, d'abord, c'est certainement pas par hasard que les grands pays n'héritent pas de ces postes de vice-président. Justement, comme Lorenzo l'a expliqué, c'est pour renforcer cet esprit d'équipe et de collégialité dont cette commission aura certainement besoin. Mais d'un autre côté, je me souviens très bien, il y a 5 ans, alors que M. Oettinger a hérité du poste de commissaire à l'énergie, c'était la même histoire. Tout le monde disait mais qu'est-ce qu'il voudra faire avec cela ? Et 2-3 ans par après, on s'est rendu compte, et on le voit maintenant avec la crise en Ukraine et en Russie, que c'est un poste éminemment important. C'est un peu la même chose qui pourrait se passer maintenant. On sait très bien qu'avec la révolution digitale numérique, il y a plein de défis. Il y a les questions de droits d'auteur, mais aussi l'essor qu'on nous promet à ce niveau-là. Et l'Allemagne essaie naturellement de miser sur des créneaux d'avenir. Et je crois que au sein du gouvernement allemand, on croit que cette révolution numérique est quelque chose qu'il faudra gérer, même si M. Oettinger est lié par l'intérêt communautaire. Comme on vient de le dire, naturellement, il aura toujours à l'esprit aussi l'intérêt des boîtes allemandes.
Et puis s'agissant de l'Allemagne, il faut dire qu'il n'y a pas que les postes de commissaire, il y a aussi des postes un peu plus discrets, notamment les directions de cabinet. Le directeur de cabinet de Jean-Claude Juncker est un Allemand et on dit que c'est un des hommes forts de cette nouvelle commission.
Le directeur du cabinet de M. Barroso est un Allemand également, aussi bien proche du PPE, du Parti Populaire Européen, comme c'est lui qui certainement deviendra l'homme fort, l'homme un peu à l'ombre, mais c'est quelqu'un de très judicieux, de très habile. On l'a d'ailleurs déjà vu lors de la mise en place de l'équipe qu'il était déjà en train de gérer pas mal d'affaires, donc il faudra le tenir à l'œil.
Alors qu'une commission aussi, hein. Oui. Il est, quand on parlait du machiavélisme, on voit très bien son empreinte là derrière, parce que lui, il est très fin, c'est un jouet d'échecs, je crois. Il est très machiavélique dans ses...
C'est pourtant un protestant.
Une commission...
Et un juriste, voilà.
Une commission, donc Quentin Dickinson, qui, je ne sais pas si on peut parler de germano-compatibilité, mais en tout cas, du point de vue de la politique économique qui sera suivie, on peut imaginer que ça n'ira pas à l'encontre des intérêts, de la volonté allemande.
Lui, d'une commission, n'est pas d'aller à l'encontre des intérêts de quelques États membres que ce soit. Et en
si particulier... ce n'est qu'une des critiques qui est formulée à l'encontre de la commission, c'est quand même beaucoup d'avoir été un des porte-parole de cette politique d'austérité.
Oui, c'est vrai,
mais l'Allemagne.
Cette politique d'austérité n'est pas le fait uniquement de l'Allemagne et de Mme Merkel. Il n'y a quand même pas qu'elle qui décide ce que l'on fait. Si vous voulez me faire dire que l'Allemagne est omniprésente dans les institutions de l'Union européenne, oui, c'est vrai aussi. Quand on regarde la position de l'Allemagne, quand les gens disent « mais quelle est la langue étrangère, quand on est francophone, la plus utile au Parlement européen ?», incontestablement, c'est l'allemand, c'est pas l'anglais ici. Regardez les présidences des groupes parlementaires, regardez les présidences des commissions parlementaires. Dans la législature précédente, on pouvait tenir une conférence des présidents des groupes parlementaires sans interprète. Tout le monde parlait l'allemand. Alors bien sûr, ils n'étaient pas tous allemands. Ah, il y avait un français alsacien, il y avait un autrichien. Il y avait des gens qui, au fond, étaient des germanophones de la périphérie. Mais c'est vrai que cette présence est importante. C'est vrai aussi qu'on ne peut pas reprocher aux Allemands d'être forts quelque part parce que nous n'avons pas pris, nous, Français, ou les Britanniques, ou les Italiens, ou les Espagnols, la peine de faire ce que les Allemands ont fait. Si aujourd'hui, les normes industrielles de l'Europe ressemblent comme deux gouttes d'eau aux normes industrielles dignes de l'industrie allemande, c'est bien parce que les Allemands ont compris qu'il y avait un endroit qu'il fallait investir il y a déjà 25 ans, c'est les comités de normalisation du Conseil des ministres. Bien, on ne peut pas reprocher aux gens de réussir là où soi-même on n'a pas fait d'effort.
Oui, mais on peut demander un certain respect. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, en entendant M. Barroso finir son intervention en prenant la culture du pacte de gros coalition et en disant que ça devait être valable partout, donc j'ai vraiment la trouille de me dire est-ce qu'ils comprennent quelque chose, vous voyez bien. Parce que c'est la réponse à ceux qui ont détruit, disons, la possibilité d'une alternative politique dans chacune des capitales, c'est qu'on doit suivre tous le pragmatisme allemand chez nous. Désolé, ça ne marchera jamais.
Voilà, José Manuel Barroso qui intervenait devant le Parlement européen pour faire en quelque sorte ses adieux avant l'arrivée de la nouvelle commission. Il y a un poste dont on n'a pas parlé, il y a un domaine dont on n'a pas parlé, mais peut-être que ce domaine est un peu une sorte d'impensé de la politique européenne, c'est la diplomatie, Lorenzo Consoli. Il y a une vice-présidente chargée donc de la politique européenne. Voilà, c'est l'italienne Federica Mogherini qui remplace la britannique Catherine Ashton. Mogherini. Voilà. Il faudra vraiment que je m'habitue à prononcer l'ensemble des noms de ces nouveaux commissaires. En tout cas, Catherine Ashton, on ne dira pas qu'elle laissera un souvenir impérissable, ou en tout cas, si elle laisse un souvenir, ça sera plutôt par ses manquements. La diplomatie européenne, c'est là aussi une rupture attendue par rapport à la précédente commission.
Oui, c'est un chapitre à part par rapport à tout le reste, parce que c'est clair que la haute représentante est un peu dans un territoire libre par rapport au contrôle qu'il y a dans la commission collégiale. Elle est aussi vice-présidente du Conseil des affaires étrangères. Président, pardon, du Conseil des affaires étrangères au Conseil de l'Union européenne.
Et puis il y a beaucoup de pays qui n'ont pas envie de lui laisser diriger la diplomatie. La France, notamment, a sa propre diplomatie.
Ce qu'on aura sûrement avec Mogherini, c'est que, premièrement, il s'agit d'une Italienne européenne, pro-européenne, fortement engagée dans l'idée européenne. et qui avait déjà, non pas une grande expérience en tant que ministre des Affaires étrangères, parce qu'elle l'était depuis 6 mois, mais elle a quand même toute sa vie fait les affaires étrangères, parce que dans sa vie, c'était
son activité. Il y a une petite différence avec l'expérience de Mme Bulc.
Oui.
D'un commissaire slovène, voilà. N'est-ce pas?
Il y a beaucoup
plus de différence.
Oui, il y a beaucoup plus de différence.
Elle part pas de zéro.
Voilà. Et en plus, elle a surpris. Elle a surpris énormément, je crois. Elle m'a surpris. Moi, je la connaissais pas bien parce qu'elle n'était pas là depuis longtemps. Mais je m'attendais vraiment pire. C'est-à-dire, je m'attendais certainement mieux que Ashton, mais je m'attendais pire de ce qu'elle est. Elle est effectivement, elle a un potentiel. Et ça lui est reconnu, elle a charmé la commission Affaires étrangères du Parlement européen. Je crois qu'elle aura des surprises.
Néanmoins, ça se jouera quand même en un mot, Quentin Dickinson, du côté du Conseil européen, c'est-à-dire du côté des États, la politique étrangère européenne.
La politique étrangère ne changera pas considérablement, quelles que soient les pressions de l'actualité à l'extérieur. Je crois qu'il y aura une continuité.
Merci beaucoup, Quentin Dickinson, Griselda Pastor, Michel Stabenow et Lorenzo Consoli, d'avoir participé à cette discussion. Programme chargé hein, en ce qui vous concerne, puisque demain, donc, la Commission européenne sera adoptée dans sa globalité par les eurodéputés. Puis ensuite, vous avez un sommet européen à Bruxelles qui vous attend pour la fin de la semaine. Voilà, vous pouvez commenter comme chaque jour l'émission sur franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Demain, ce sera une émission consacrée au bonheur. Nous nous demanderons si la recherche du bonheur n'est pas au cœur du pessimisme français.